Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, la descente visible du Saint-Esprit sur les apôtres nous montre ce que ce même Esprit opère en chacun de nous invisiblement, puisque dans la Sainte Écriture, bien des choses visibles nous montrent les mystères invisibles de Dieu et de notre sanctification, parce que Dieu est un Père, Dieu nous connaît parfaitement, il sait très bien que pour accéder aux choses invisibles, nous avons besoin de nous appuyer en quelque sorte sur des symboles, sur des choses visibles. Et c'est pourquoi ce mystère de la Pentecôte nous enseigne le grand mystère de la grâce. Et c'est une doctrine de la plus haute importance. Nous nous demandons souvent pourquoi nous faisons peut-être peu de progrès dans notre vie surnaturelle malgré tous nos efforts. Mais c'est peut-être parce que nous avons une conception trop humaine de la vie de la grâce en nous. Et à cause de cela, au lieu de marcher droit et de marcher directement dans les sentiers de la sainteté, de vraiment coopérer à la grâce en nous, nous nous perdons dans les sentiers détournés. Et c'est pourquoi, dans la fête d'aujourd'hui, nous pouvons contempler trois enseignements. D'abord, celui qui nous sanctifie, l'auteur de la grâce, qui est Dieu et qui est montré par le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres. Ensuite, comment est-ce que Dieu nous sanctifie? Et cela est montré par le vent, par un vent violent. Il montre que Dieu opère d'une manière bien réelle, mais invisible, et parfois, très souvent, insensible. Et enfin, la fête d'aujourd'hui nous montre ce que Dieu opère en notre âme. Et cela est symbolisé et montré par des langues de feu. Le feu transforme profondément tout ce qu'il touche, un peu comme une barre de métal, une barre de fer, plongée dans le feu, devient feu lui-même. De même, la grâce transforme profondément notre âme. Ensuite, la grâce nous illumine nos intelligences, comme le feu éclaire. Et puis la grâce embrase nos volontés d'amour de Dieu, comme le feu embrase tout ce qu'il touche. Et d'abord, quel est celui qui opère notre sanctification? Qui est l'auteur de la grâce? Et saint Thomas nous enseigne que ce ne peut être que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que, vous le savez, la grâce, c'est une certaine participation à la nature divine, à la vie de Dieu, qui dépasse toute nature créée. Et c'est pourquoi Dieu seul peut nous faire participer à la grâce, parce que Dieu seul peut nous faire participer à sa vie divine. Comme saint Thomas le dit, Dieu seul déifie, de même qu'il est impossible que le feu soit communiqué par autre chose que le feu lui-même. Dieu seul peut nous communiquer sa grâce. Et comme le dit saint Grégoire de Nazianze, on appelle aussi le théologien, c'est un père grec, « Si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, comment peut-il me diviniser ?» La grâce, c'est une certaine divinisation de l'âme, et elle ne peut être que par Dieu. Ceci nous montre la grandeur et le prix de la grâce. C'est important d'y penser souvent, à chaque moment de notre vie, à chaque difficulté, nous recevons des grâces actuelles. Et si nous sommes en état de grâce, nous avons le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Il faut profiter de cela, profiter de ce don inestimable. Comme le disait notre Seigneur à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, si seulement nous méditions un petit peu sur cette vie de la grâce, nous serions plus ardents à en profiter. » Ensuite, on peut se demander pourquoi c'est le Saint-Esprit qui descend. Pourquoi pas le Père? Pourquoi pas le Fils? C'est parce que la grâce se manifeste principalement dans la charité. Parce que Dieu est charité. Et comme le dit aussi saint Thomas, puisque le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme l'amour, il lui appartient d'être le don de la sanctification. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme l'amour, parce que vous savez que le Fils procède du Père comme le Verbe, on entend dans le dernier évangile, donc il est le Verbe de Dieu, donc il procède comme par mode d'intelligence, alors que le Saint-Esprit unit d'une certaine manière le Père et le Fils et par conséquent, il est l'amour. On le compare comme un nœud qui unit le Père et le Fils. Bien sûr, ce sont des mystères qui nous dépassent, ce sont de lointaines comparaisons, mais cela nous permet de comprendre de très loin ce qu'est la Sainte Trinité. Ensuite, on peut se demander comment est-ce que la Sainte Trinité nous sanctifie. Parce que savoir comment Dieu agit en nous nous aide à savoir nous-mêmes comment nous devons nous disposer à la grâce, comment nous devons coopérer à la grâce. Et c'est ici où la fête de la Pentecôte nous donne un enseignement très important pour la vie spirituelle. Le Saint-Esprit s'est manifesté par un vent véhément, mais par un vent et par conséquent d'une manière invisible, du moins au début. Et cela nous montre que la grâce en elle-même n'est pas sensible. Et c'est très important. Souvent, régulièrement, nous avons effectivement ce qu'on appelle des consolations dans notre vie surnaturelle. Nous sentons une certaine joie, un certain plaisir, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le service de Dieu. Nous avons un certain goût qui nous aide beaucoup, effectivement. Mais il faut bien comprendre que cela n'est pas l'essentiel, que cela est accidentel, en fait. Et il y aurait un risque à trop s'attacher à ces consolations. Et comme le disent les auteurs spirituels, on risquerait, en s'attachant trop aux consolations de Dieu, de négliger le Dieu des consolations. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que la grâce en elle-même n'est pas sensible, pourquoi est-ce qu'on ne la sent pas? C'est tout simplement parce que, vous le savez, la grâce, on a dit, est une participation à la vie divine, à la nature divine. Or, vous le savez bien, Dieu n'est pas corporel, Dieu n'est pas sensible, il est un pur esprit. Et comme le dit notre Seigneur à la Samaritaine, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi, quand Dieu cherche à nous amener à lui, par sa grâce, de plus en plus, très souvent, régulièrement, il nous retire ses consolations. Parce que lorsqu'il retire ses consolations, cela nous oblige à nous détacher de ce qui est accidentel, à ces consolations sensibles, pour nous concentrer vraiment sur ce qui est l'essentiel de la grâce, c'est-à-dire la foi qui éclaire nos intelligences et qui nous fait participer à cette connaissance que Dieu a de lui-même, et puis la charité, une vraie charité, une ferme résolution d'aimer Dieu, de le servir, de chercher à lui plaire en toutes choses, même quand c'est difficile, même quand on n'en a pas envie. C'est cela la véritable charité, c'est cela la véritable grâce. Et c'est très important de nous en souvenir dans les temps de sécheresse. Et en même temps, pour que nous ne nous décourageons pas dans ces moments de sécheresse, ce vent est décrit comme étant véhément. C'est pour nous montrer la puissance de Dieu dans notre sanctification. Parfois, on est un petit peu déboussolé, un petit peu, on a du mal à savoir ce qu'il faut faire dans ces moments de sécheresse. Alors, Dieu nous montre qu'il est puissant, qu'il faut vraiment garder l'espérance. Puisqu'en effet, dans l'affaire de notre salut, c'est Dieu qui a vraiment l'initiative, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de la grâce, qui nous donne la grâce. C'est lui qui nous mène au fond. Et comme Dieu est un Père qui nous connaît parfaitement, qu'il est tout-puissant, il sait exactement ce qu'il faut pour nous. Et il le fait d'une manière très efficace, à comparaison, bien sûr, que nous coopérions à la grâce, que nous ne la rejetions pas. Parce que malheureusement, nous pouvons toujours rejeter la grâce. Comme on le dit souvent à l'office, « Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram ». Notre aide est dans le nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui est tout-puissant. C'est important de s'en rappeler. Enfin, troisièmement, qu'est-ce que le Saint-Esprit opère dans nos âmes? Saint Thomas le résume très bien dans une phrase magnifique. Il nous dit « De même que l'intelligence de l'homme participe de la connaissance de Dieu par la vertu de foi, et que la volonté de l'homme participe à l'amour divin par la vertu de charité, de même, la nature de l'âme humaine participe, selon une certaine similitude, de la nature divine par le moyen d'une régénération et d'une création nouvelle. » Donc il y a trois effets. D'abord, une transformation profonde de notre âme, de l'essence même de notre âme d'une certaine manière, parce que saint Thomas appelle une création nouvelle, de même que la barre de fer plongée dans le feu devient d'une certaine manière feu elle-même, devient incandescente, comme on dit. Ensuite, elle illumine notre intelligence, et puis elle embrase nos volontés. D'abord, la grâce nous transforme profondément. C'est là une vérité très importante. Nous devenons vraiment fils de Dieu par adoption. C'est là une réalité profonde qui touche notre âme dans son essence même. C'est donc vraiment comme co-naturellement qu'on peut ensuite servir Dieu de tout notre cœur. La grâce doit nous faire vivre d'une vie toute nouvelle, d'une vie de la grâce. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre en enfants de Dieu. Cela est très important. Et cela est en même temps très consolant de penser à cette puissance de la grâce en nous. Ensuite, la grâce illumine notre intelligence. C'est la vertu de foi. Vous avez peut-être remarqué dans l'évangile d'aujourd'hui ce contraste, quelque chose d'un petit peu étonnant. Notre Seigneur dit à ses apôtres, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. » Et tout de suite après, notre Seigneur ajoute, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Si notre Seigneur a déjà enseigné à ses apôtres par sa parole, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint serait nécessaire ensuite pour enseigner de nouveau la même chose? N'est-ce pas un peu étonnant? N'est-ce pas faire d'une certaine manière double emploi? Non, eh bien non. On le voit bien dans l'attitude des apôtres. Les apôtres, juste avant l'ascension, en fait, n'avaient pas vraiment compris les paroles de notre Seigneur, son enseignement. Puisqu'en effet, l'un d'entre eux demande à notre Seigneur, juste avant l'ascension, tout à la fin, est-ce maintenant que vous rétablirez la royauté pour Israël? Autrement dit, les apôtres pensaient encore que notre Seigneur viendrait pour établir une royauté toute temporelle, une royauté toute humaine, alors que la royauté, ce royaume de Dieu, est essentiellement d'ordre surnaturel. Mais les apôtres n'avaient pas vraiment compris. Ils le comprendront vraiment au moment où le Saint-Esprit leur enseignera de nouveau, leur fera comprendre, en fait, les paroles de notre Seigneur. Évidemment, notre Seigneur, qui est Dieu, tout comme le Saint-Esprit, aurait pu illuminer l'intelligence de ses apôtres au fur et à mesure de sa prédication et leur faire comprendre profondément, de même qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait comprendre profondément toutes ces choses à ses apôtres. Mais notre Seigneur ne l'a pas voulu. Il a voulu réserver ce rôle pour le moment de la Pentecôte, précisément pour nous apprendre que la pénétration des mystères de la foi nous vient par la grâce de Dieu et non pas par nos propres efforts naturels. Si on prend un petit exemple qui peut nous aider à comprendre, si dans une salle où il y a un tableau, sur le tableau il est écrit « Je crois à la très sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit », et que dans cette salle, il y a un catholique, qui a le don de la foi, un païen et un chien. Ces trois êtres comprendront ou verront cette même phrase d'une manière tout à fait différente, puisque chacun a trois lumières bien différentes. Le chien n'a que la lumière sensible, donc il ne comprend que sensiblement. Il voit sur le tableau des traits blancs. Il ne voit pas plus que cela. Le païen, lui, verra un peu plus parce qu'il a la lumière de l'intelligence. Donc, il comprendra les mots un à un, il comprendra en gros ce que ça veut dire. Mais en fait, il n'y a que le catholique, il n'y a que celui qui a le don de la foi, qui a la vertu de foi, qui comprendra profondément, qui pénétrera en fait cette vérité de la très sainte Trinité. Autant qu'on peut évidemment par la lumière de la foi, c'est pas comme Dieu se connaît lui-même, bien en deçà, mais par les dons du Saint-Esprit et aussi par la vertu de foi, on goûte vraiment ces vérités et on sait ce qu'elles doivent être dans nos vies, comment elles doivent nous transformer profondément. Et c'est là une vérité très importante. Voyez, dans les sept dons du Saint-Esprit, il y en a quatre, pas moins de quatre qui sont là pour illuminer nos intelligences. Le don de sagesse nous fait goûter les choses comme Dieu les goûte lui-même d'une certaine manière. Le don d'intelligence nous fait pénétrer les mystères de notre foi, précisément. Le don de science qui nous fait voir les choses d'ici-bas, les choses matérielles, comme Dieu les voit, ou comme on doit les voir, selon le don de la foi. Et puis le don de conseil qui nous aide à nous diriger selon la lumière, selon les enseignements de notre foi. Donc c'est quelque chose de très important. Saint Thomas affirme avoir davantage appris au pied de son crucifix que dans les livres. Cela veut tout dire. Enfin, la lumière du Saint-Esprit, enfin la grâce du Saint-Esprit, embrase nos volontés de l'amour de Dieu, nous fait participer à l'amour divin par la vertu de charité. Il nous inspire une véritable ferveur. D'ailleurs, le mot ferveur vient de fervere, qui veut dire bouillonner ou encore embraser, brûler. Mais on le voit bien dans l'attitude des apôtres, tout de suite après la Pentecôte, ils sont tout brûlants de l'amour de Dieu, prêts à tout souffrir pour la gloire de son nom. Et comme le dit Saint Bernard, la mesure de la charité, c'est d'aimer sans mesure, c'est d'aimer de tout notre cœur, de tout son possible. Et cela s'oppose à cette morale du chrétien mondain, du chrétien tiède, qui, au fond, cherche à jouir autant que possible de ce monde en essayant tout de même d'éviter le péché mortel pour aller au ciel, mais qui néglige les bonnes œuvres, qui ne fait pas tout ce qu'il peut pour l'amour de Dieu. Mais c'est très dangereux que l'on garde à cette médiocrité. Regardez, dans la scène du jugement dernier, les méchants, donc les boucs qui sont mis à gauche, sont condamnés, non pas tant parce qu'ils auraient tué leurs voisins, tué leurs prochains, volé, et ainsi de suite, commis quelques péchés. Bon, c'est vrai, bien sûr, les âmes qui se damnent sont en état de péché mortel, ils ont commis des péchés mortels. Mais notre Seigneur insiste dans cette scène du jugement dernier, sur le fait que ces méchants, ceux qui sont condamnés, n'ont pas fait, ils n'ont pas donné à manger à leur prochain quand il avait faim, donné à boire quand leur prochain avait soif, vêtu celui qui était nu, et ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont pas fait des bonnes œuvres. Et si notre Seigneur insiste sur cet aspect-là, c'est pour nous montrer bien l'importance de fructifier, de faire fructifier nos talents. Comme il le dit ailleurs, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe, et on le jette au feu. Voilà. La charité, la véritable charité, nous pousse à tout faire pour l'amour de Dieu, à faire de grandes choses pour glorifier Dieu. C'est que la grâce est acquise par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don inestimable, il nous est donné par le Saint-Esprit. Il faut en profiter de tout notre possible, vraiment faire tout ce qu'on peut pour l'amour de Dieu. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui nous l'inspire. Bien. En conclusion, chers fidèles, prions le Saint-Esprit pour qu'il nous donne précisément l'intelligence de cette doctrine de la grâce. Comme le dit Saint Grégoire le Grand, si l'Esprit Saint n'est pas présent au cœur de celui qui écoute, la langue de celui qui enseigne travaille en vain en dehors. Invoquons Notre-Dame qui était présente au Cénacle pour qu'elle nous obtienne par son intercession l'abondance de la grâce du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.